Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah. Salut, c'est Juliette Katz et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une violence dont un Français sur 10 affirme avoir été victime et qui est l'un des plus grands tabous de notre société, l'inceste. Pour autant, c'est l'un des sujets où nous avons recueilli le plus de témoignages et ça nous a énormément touchés et bouleversés. Parmi toutes ces histoires, nous n'avons pu en retenir qu'une, celle que je propose de découvrir maintenant avec Madia. Alors, salut Madia.
Salut, enchantée.
Enchantée. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie ?
Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Madia. Je suis chargée de recrutement en alternance spécialisée en IT. Et donc là, je finis cette année ma licence.
Ok. Et t'as quel âge ?
J'ai 24 ans, bientôt 25.
D'accord. Alors, on pose les mêmes questions à chaque invité. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots.
Alors, moi, je suis quelqu'un de très curieuse, très, très empathique. Mais ça, on verra, on comprendra un peu plus tard pourquoi, finalement. Et troisième mot, je ne sais pas, très... En fait, voilà, je ne suis pas très délicate.
Ok. Délicate, genre t'es maladroite ?
Non, c'est pas que je suis maladroite, mais des fois, je suis un petit peu trop brute de décoffrage.
Ok. J'ai bien l'image. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Alors là, il me faudrait quelques instants pour réfléchir.
Vas-y. Est-ce que tu veux que je te dise ce qu'on nous a dit un petit peu ?
Oui.
Peut-être ça va t'aiguiller. Il y en a qui nous ont dit putain. Il y en a qui nous ont dit du coup. Mon mec, c'était machin.
Oui, je me souviens de machin.
Je crois que c'était ça.
Ok, bah alors je dirais plutôt courage.
Courage.
Mm.
Ok. L'endroit où tu te sens le mieux ?
Je suis bien chez moi.
Chez toi, peu importe où.
Ouais, je suis bien chez moi. Après, c'est vrai que mon chez-moi, je le définirais plus dans la nature, d'où le fait que je veux déménager, mais chez moi.
Ok. Et qu'est-ce que tes proches disent de toi ?
Je pense qu'ils diraient que je suis quelqu'un qui est sensible, mais qui ne le montre pas forcément. Et j'aime bien faire plaisir à tout le monde, en fait.
D'accord, très bien. Bon, est-ce que tu te sens prête à entamer cet épisode ?
Carrément.
Ouais, bon. Est-ce que tu peux me parler de ta famille, d'où tu viens, si tu as des frères, des sœurs, et comment tes parents se sont rencontrés ?
Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis algérienne-hollandaise. Et donc, ma mère est hollandaise, mon père est algérien. Et ils se sont rencontrés à Paris lorsque ma mère faisait un voyage de un an à Paris. Et puis, ils ont emménagé tous les deux en Hollande, où ils ont fait, on va dire, ma sœur et mon frère. Donc, ma sœur qui est l'aînée de 6 ans, okay, de plus que moi. Et mon frère de 4 ans de plus que moi.
D'accord.
Et puis, quand ma mère est tombée enceinte de moi, ils ont décidé de revenir en France. Mmh. Et donc, elle a accouché de moi à Paris 18e.
Ok. Et comment, eux, ils se sont rencontrés ?
Alors, eux, ils se sont rencontrés grâce à des amis communs, il me semble. En tout cas, de ce que j'ai compris.
Ok. Comment se comportaient ta mère et ton père avec vous et comment ça se passait aussi entre eux dans leur couple ?
Donc, du coup, tous les deux, au début, ils s'aimaient très, très fort. Ils se sont mariés assez rapidement. En fait, ma mère a rencontré mon père à 19 ans et lui, il avait 13 ans de plus qu'elle.
D'accord.
Et ils s'aimaient très très fort, donc ils se sont mariés un tout petit mariage très privé, sans même mes grands-parents du côté de ma mère. Ils ont très vite fait, du coup, ma sœur et mon frère plutôt, dans ce sens-là. Et en fait, je pense que c'est plutôt à ma naissance que ça s'est dégradé, puisque ma mère, elle a vite remarqué qu'il faisait pas beaucoup pour la famille. C'était elle qui soutenait la famille, dans le sens où c'était elle qui ramenait de quoi nous nourrir, en fait. Et par exemple, hein, pour le déménagement entre la Hollande et les Pays-Bas, c'est... Normalement, c'était mon père qui devait s'occuper du déménagement, puisqu'elle travaillait et puis elle était enceinte quand même de 8 mois. Et finalement, non, ils sont arrivés à Paris, ils n'avaient pas de logement. Du coup, ma mère a dû tout faire en 2 jours à peine pour trouver un logement pour tout le monde. Et donc, en fait, ils avaient un appartement, enfin, on avait un appartement dans le 18e. Et à cette époque-là, ma mère, elle a vu qu'elle se faisait tromper par la voisine.
Qu'elle se faisait tromper ?
Ouais.
C'est-à-dire que ton père...
La trompait.
Avec
voilà,
la voisine.
Avec la voisine, exactement. Et en fait, quand elle lui a mis... quand elle l'a mis face au mur, il l'a menacé en disant « Écoute, en gros, tu te tais et tu restes comme ça. Sinon, j'emmène les enfants en Algérie et tu les verras plus. »
D'accord. Okay.
Donc, c'était très compliqué.
Ouais.
Et par la suite, ça a fait que se dégrader. C'était une femme quand même battue, ma mère. Mm. Et j'en ai encore les souvenirs aujourd'hui de le voir en train de jeter une chaise en bois contre elle au sol. Enfin, c'était très, très, très difficile. Mais elle devait faire en sorte que nous, on aille bien à cette époque-là. Donc,
Et du coup comment ils étaient avec vous ?
Alors, ma mère, super, vraiment rien à dire. Elle nous faisait vraiment tout à la maison dès qu'elle le pouvait. Mais par contre, elle partait tôt le matin et elle rentrait tard le soir. Et mon père, lui, c'était totalement différent. Alors, pour ma part, c'était vraiment... Moi, j'étais vraiment sa petite protégée.
Okay.
Donc, pendant la journée, il faisait vraiment attention à nous. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Mais lui, il faut savoir que c'était quelqu'un qui était alcoolique, drogué, il fumait beaucoup de joints. Et donc, à cette période-là, on va dire, il ne fallait pas trop s'y intéresser, il ne fallait pas se tourner vers mon père, on faisait plutôt nos choses de nos côtés. Mais ouais, j'étais quand même sa petite protégée, dans le sens où, par exemple, le soir, on allait au tabac ensemble pour qu'il aille choper ses clopes. Et il m'offrait toujours un petit bonbon. Mais par contre, je le mangeais jamais, le bonbon.
Ah ouais ?
Je le gardais toujours pour mon frère ou pour ma sœur le soir en rentrant. Parce qu'eux, ils n'étaient vraiment pas gâtés pour le coup.
Okay.
Et donc, mon frère, lui, il se faisait battre. C'était très, très violent.
Par votre papa ?
Voilà, exactement. Et ma sœur, c'était quelque chose de différent. Elle n'était pas battue. Mais par contre, il y avait un sort de dénigrement. Alors que, elle a toujours essayé d'être parfaite, mais je pense que c'était jamais suffisant, en fait, à ses yeux.
Il la considérait pas...
Je pense qu'en fait, mais après, ça, c'est mon point de vue. À partir du moment où moi, je suis arrivée, en fait, il s'est dit, une autre fille, c'est plus elle qu'on va cajoler, tu vois.
D'accord. Alors, comment tout ça a commencé ? Est-ce que tu as des souvenirs qui te viennent ?
Alors ouais, j'ai des très très forts souvenirs. Alors moi, ça a commencé les viols à mes 2-3 ans environ.
D'accord.
Et c'était jusqu'à mes 5 ans et demi, je dirais. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que souvent mon père et ma mère se disputaient. Et donc ma mère, soit elle allait sur le canapé, soit elle allait prendre mon lit dans la chambre que j'avais avec mon frère. Et en fait, du coup, mon père était toujours à l'initiative à ce que je vienne partager le lit conjugal. Donc en fait, j'allais toujours quasiment tous les soirs finalement dormir avec lui. Et en fait, c'était toujours la même rengaine finalement, mais pour moi, c'était hyper banal. Hein.
Oui.
Voilà. Donc c'était toujours la même rengaine. C'était « Ah, tu veux bien me faire plaisir et tout ça ?» du coup, quand on était dans le lit, à chaque fois, c'était « viens sous la couette ». Et en fait, il baissait son caleçon pour que je puisse lui faire une fellation.
À partir de 2 ans ?
À partir de 2 ans, ouais. Du coup, j'ai quand même des souvenirs assez, assez très très forts hein, par rapport à tout ça. Et ouais, en fait, c'était toujours des fellations. Il me baissait ma culotte pour pouvoir, moi aussi, me toucher. Mais pour moi, c'était vraiment... Enfin, c'était pas de la sexualité dans le sens où, tu sais, je savais même pas que c'était un endroit où on pouvait prendre du plaisir.
Bah, bien sûr, à 2 ans, c'est pas du tout nommé comme tel. Mais
voilà, ouais. Exactement. Et donc, en fait, je me souviens avoir toujours la tête en dessous de la couette. Sentir la sueur et tu sais, il y a le liquide préséminal et ça, je l'avais toujours en bouche finalement. Du coup, j'avais un peu le goût. Bon, je vais pas tout détailler non plus.
Ah, mais tu dis ce que tu veux, sens-toi vraiment libre de dire ce que tu veux.
J'avais le truc hyper salé de mélanger entre la sueur et du coup le sperme tout simplement. Et du coup, ouais, c'était quasiment ça finalement tous les soirs et même en fait en journée dès qu'il en avait l'occasion. Il me suivait aux toilettes. Il me regardait toujours aller aux toilettes. Il voulait toujours être présent avec moi. Et dès que ma mère n'était pas là, par exemple, les mercredis, quand on n'avait pas école parce que j'étais petite, tu vas te promener toute nue, concrètement. Il me baissait la culotte. Et une fois, justement, on était dans la cuisine. Et ma sœur était là. Et elle est rentrée dans la cuisine et elle m'a vu la culotte baissée. Et en fait, elle était très, très choquée de voir ça parce qu'elle, elle a 6 ans de plus que moi. Donc, elle avait une dizaine d'années et elle comprenait que finalement, il y avait quelque chose qui se passait. Mais moi, elle ne me le faisait pas forcément comprendre. Derrière, ma sœur, elle était très attentionnée, il faut savoir, avec moi. Moi, j'étais vraiment sa petite sœur. Enfin, à chaque fois, j'étais, par exemple, sa tête à coiffer, etc. Mais du coup, elle prenait très soin de moi. Et à cette époque-là, je pense qu'elle n'a pas voulu me faire rendre compte non plus des choses parce que j'étais pas capable de m'en rendre compte. Donc, elle a essayé d'en parler à ma mère. Mais ma mère,
elle l'entendait pas.
Voilà, tu peux pas croire à ça.
Ouais.
Enfin, c'est inimaginable. Autant il était mauvais avec elle, mais pas avec les enfants. Surtout qu'il voyait, elle voyait comment il me traitait. Et j'étais vraiment la petite fille cajolée, quoi.
Est-ce que, justement, t'y as un peu répondu, mais est-ce que à cet âge-là, tu comprends un peu ce qui se passe et tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ?
Alors, je sens au plus profond de moi qu'il y a quelque chose de pas normal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en prenant du recul, que j'ai remarqué que j'avais jamais aimé mon père, finalement. Mais c'était quand même quelque chose de normal. C'était notre rituel à nous, finalement. Avec qui il le partageait pas, c'était une relation assez spécifique, mais non, jamais j'aurais pu me rendre compte que c'était quelque chose de mauvais.
Tu te sentais presque privilégiée d'avoir cette relation avec lui.
Ouais. Mais surtout quand je le voyais agir avec mon frère, surtout que je partageais la chambre avec lui, et donc je voyais vraiment tout ce qui se passait avec mon frère. Moi, ça n'avait rien à voir.
Ouais. Et donc ça a commencé à 2 ans.
Ouais.
Jusqu'à 5 ans.
Ouais, c'est ça, quasiment 6 ans, ouais.
Et est-ce qu'il y a la famille qui s'en est aperçue à un moment? Ou pas.
Alors,
y a eu ta sœur qui a vu quelque chose.
C'est ça. Et quelques temps après, il y a un matin, après encore une fois avoir dormi avec lui, ma mère, elle vient dans la chambre conjugale, elle soulève la couette et elle me voit en fait la culotte baissée. Et là, en fait, elle pète un câble, littéralement. Et elle pète un câble contre mon père, bien évidemment. Sauf que tout de suite, c'est des menaces. Et il faut savoir que ma mère, à cette époque-là, elle n'était vraiment pas libre. Il surveillait ses appels, il surveillait ses SMS, il surveillait tout. Donc, en fait, elle a réfléchi. Elle a été super intelligente. Donc, elle est allée au travail ce jour-là. Et elle a utilisé son téléphone du travail pour appeler une assos et pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Parce que là, après que ma sœur lui ait dit, et puis quelques temps plus tard, finalement, elle s'en rend compte... c'était plus possible de continuer comme ça. Et en fait, la sauce lui a dit il faut fuir, il faut s'éloigner au plus vite de ce personnage. Et donc...
Là, t'avais quel âge ?
Là, j'avais 5 ans et demi, en fait.
Okay.
Donc, ma mère, elle a eu la sauce. Et donc, à ce moment-là...
L'association, hein.
Ouais, l'association, ouais. Pardon. Donc, elle s'est dit, OK, je vais faire les choses correctement. Et donc, le soir, elle nous avait préparé à manger. Mon père était encore une fois avec son meilleur pote dans le salon en train de fumer et de boire. Donc, il était totalement occupé à faire autre chose. Il n'en avait rien à faire de nous. Et elle avait fermé la porte de la cuisine et la porte de notre couloir où on pouvait voir qu'on partait pour qu'on soit un peu à l'aise, entre guillemets. Et elle avait préparé des sacs pour nous trois. Et elle a dit, écoutez, là, les enfants, il va falloir pas faire de bruit. On va y aller. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, on va où, etc. Donc nous, on exécute on savait que là, il y avait quelque chose. Et même si on était jeunes, on va juste suivre notre mère parce que c'était en elle qu'on avait notre confiance absolue, finalement. Donc, on met nos chaussures, elle a préparé nos sacs et là, on part. Et en fait, on part chez sa meilleure amie, qui était aussi sa collègue de travail à une époque, qui avait un mari qui était plutôt costaud. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, il pouvait nous sécuriser, on va dire. Et là, je me rappelle encore le souvenir où on est sur le chemin, parce que c'était pas très long, hein, c'était peut-être 15-20 minutes de marche. Et où elle appelle sa meilleure amie en disant, écoute, là, enfin, on pleure, hein, vraiment. Hein. Là, on a fui, il a fallu partir, on vient chez toi, il faut qu'on trouve un refuge, etc. Et donc, le lendemain, on est allé au commissariat de Beson, donc dans le 95.
Ouais.
Et donc, ils ont entendu ma mère. Et ils ont dit, là, nous, ici, on n'a pas les moyens humains pour prendre en charge votre problème. Donc, on va rentrer chez vous. Vous allez manger tranquillement pour le midi. Et ensuite, on va aller au commissariat de Argenteuil. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ça aussi on a eu beaucoup de chance. C'est que, en fait, le commissariat de Argenteuil avait installé un nouveau comité, un nouveau pilote, en fait, où en fait des policiers étaient formés pour ce type de cas. Parce que Argenteuil, il y a beaucoup de misère. Mmh. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, on va dire que c'est toujours implémenté d'abord là-bas pour tester.
Okay.
Et donc, finalement, ils ont pris notre plainte à Argenteuil, nous trois, les trois enfants. Je me rappelle encore, on était embarqués par la police, mais cette fois, pas menottés, tu vois.
Mais juste, moi, je me demande, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Enfin, tu vois, ça a été quoi le... J'imagine qu'il y a eu un plan d'action, tu vois, de la part de ta mère pour porter plainte, pour... Parce que là, elle voit ça. Parce que moi, je me mets à la place de ta mère, je n'y suis absolument pas, mais il y a sa fille qui lui dit, il se passe quelque chose avec notre sœur, avec ma sœur. Et puis elle découvre quelque chose dans le lit. Et tout de suite, elle a agi, en fait.
Ouais.
Elle n'a pas attendu, elle ne s'est pas... Elle t'a tout de suite cru, même si... Enfin, elle t'a posé des questions, d'ailleurs, ou pas, avant de partir de la maison?
Non, même pas posé de questions, parce qu'en fait, on savait déjà que c'était quelqu'un de dangereux, ouais. Puisqu'elle le voyait très bien avec mon frère, ouais. Elle le voyait très bien avec elle-même. Donc non, en fait, c'est vraiment au vu de toute la situation, tout le contexte, où elle s'est dit vraiment, là, c'est quelqu'un de dangereux, il faut absolument fuir, en fait.
Mmh. Mais alors, justement, comment ta mère passe de cette prise de conscience au dépôt de plainte? Est-ce qu'il y a eu un plan d'action ou pas? Ou juste, ça a été...
Ouais, je pense que c'était
elle a
plus.
Agi direct, quoi.
Ouais, je pense que c'était plus ça. Je pense qu'il y a un moment où l'instinct maternel aussi il se réveille et même, enfin, je veux dire, elle-même, je pense qu'elle n'était pas forcément, enfin, c'est sûr, elle n'était pas heureuse. Elle voyait très bien que c'était quelqu'un qui était nocif pour nous.
Ouais.
Donc en fait, il fallait juste fuir et ensuite on voit étape par étape ce qui se passe en fait.
Comment s'est passé le dépôt de plainte, justement?
Alors, le dépôt de plainte, c'est à ce moment-là, je pense, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait réellement dans ces actes, puisque la police, donc, elle nous a pris chaque enfant séparément pour recueillir toutes les informations possibles. Et en fait, il y avait une policière qui était face à moi. Super gentille d'ailleurs, très délicate. J'avais beaucoup de chance. Et en fait, elle me demandait sur un dessin d'un corps humain où est-ce que j'avais été touchée, et même sur un dessin d'homme, qu'est-ce que j'ai dû faire, quelle partie j'ai dû toucher. Et en fait, à ses réactions, j'ai compris que là, il y avait quelque chose qui allait pas en fait.
Mmh.
Mais c'était pas avant.
Et tu l'avais pas nommé comme ça avant, quoi?
Non, jamais.
Ok. Et du coup, par la suite, comment ça s'est passé? Donc, elle a recueilli du coup les trois témoignages, donc les deux sœurs et le frère. Et comment ça se passe à ce moment-là?
Alors, ce qui se passe, c'est que ils voient que tous les témoignages se coordonnent. Enfin, on dit tous les trois les mêmes choses, et puis même ma mère. D'ailleurs, ma mère s'inquiétait à ce moment-là de perdre la garde. Elle disait aux policiers, mais pourquoi vous me laissez les enfants? Enfin, je veux dire, peut-être que moi aussi, je suis mauvaise finalement pour eux. Et les policiers ont dit, mais cette simple question suffit à elle-même, en fait.
Ouais.
On sait très bien que vous êtes une bonne mère, vous agissez dans le bon sens. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que la police a compris que nos témoignages étaient cohérents.
Mais alors, juste celui de ton frère, du coup, parce que ton frère n'avait rien vu.
Non.
Mais il a quand même eu un regard là-dessus.
Il a quand même eu un regard là-dessus parce qu'il voyait quand même le quotidien. Ouais. Et en fait, grâce à son témoignage, on voyait aussi le personnage dangereux.
Ouais. Oui, et puis vous pouvez témoigner de « ma sœur ne dort pas avec moi, elle dort avec papa ».
C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, comme lui ne travaillait pas, la police a décidé de le mettre en garde à vue. Je ne sais même plus comment on appelle ça exactement, mais tu es emprisonné en avance avant le procès.
Ah oui, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Voilà, mais en tout cas, il était emprisonné en avance parce que justement, en fait, il n'avait rien à devoir puisqu'il n'avait pas de travail, il n'avait rien.
Okay.
D'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans notre fuite, c'est que dans toute cette histoire, ma mère était super intelligente. Et en fait, pour ne pas dire qu'elle a séquestré mon père chez lui, en fait, elle avait fermé à double tour notre maison et ses clés, elle les a cachées dans le frigo. Ouais. Pour que lui, il mette le plus de temps possible à chercher ses clés et qu'il ne vienne pas nous chercher par la suite.
Mais alors juste, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu le moment où elle vous a pris et vous êtes partie de la maison? Est-ce qu'il a essayé de l'appeler, de savoir vous êtes où, rentrer? Ou alors tu n'as pas le souvenir de ça?
Alors non, ça je ne pourrais pas te dire. Je pense qu'à ce moment-là, ma mère elle a essayé de nous éloigner un maximum de tout ce rapport-là finalement. Ouais. Il fallait juste avancer nous. De notre côté, on va dire.
On va marquer une petite parenthèse. c'est un jeu qui s'appelle l'intimidé. Enfin, c'est pas tout à fait un jeu, mais c'est un moment où un autre partage, on va dire. Il est juste en face de toi, à côté de la bouteille d'eau. Il y a un dé, donc avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Donc je te propose de lancer le dé. Orange. Alors, ça peut parler de ça ou enfin, tu réponds en fonction de ce que tu veux, de ce qui te vient. Que fais-tu lorsque tu dois surmonter un moment difficile dans ta vie?
Moi, je suis du genre un peu à m'isoler et je suis bien avec mes animaux.
Ouais.
En fait, j'ai un chien et un chat. Donc, en fait, ça va vraiment être le moment où en fait, j'ai envie d'être chez moi, me ressourcer tranquillement. En fait... cogiter à tout ça, à réfléchir, prendre du recul. Et là, après, je vois.
Ok, c'est bien d'être avec tes animaux. Est-ce que tu peux tirer une deuxième fois le dé? Violet. As-tu déjà été confrontée à une discrimination ou à une injustice? Et si oui, comment as-tu géré la situation?
Alors, j'ai beaucoup été confrontée à des discriminations, mais ce n'était pas directement à moi.
Ouais.
C'était souvent par mon entourage et souvent aussi c'est par rapport tous les maghrébins, etc. Donc moi en fait j'adore réagir là-dessus parce que quand on me voit d'un premier abord on sait pas que je suis algérienne. Donc du coup je dis ah super, je suis algérienne et là je crée le malaise et c'est ça que j'aime bien.
C'est bien, t'as raison. Bon alors, pour retourner un petit peu dans le sujet, 2 ans après, le procès s'ouvre au tribunal de Nanterre. Qu'est-ce que vous attendez de celui-ci?
Qu'il soit jugé pour les actes qu'il a commis. Donc nous, on avait une très très bonne avocate qui était spécialisée dans les crimes d'enfants. Et donc en fait, là, à ce moment-là, il fallait vraiment reconnaître ses torts. On attendait que ça. Et on en a profité aussi pour faire le divorce de mes parents.
Ok. Et donc, en fait, quand il y a eu le procès qui s'ouvre au tribunal, il s'est passé 2 ans.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans?
En fait, ils font des analyses. Parce que finalement, les preuves ne sont pas très matérielles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été chez des psys. Moi, j'ai fait 7 ans de psy. Et donc, c'était par rapport...
À partir de 5 ans
6 ans, ouais.
De 6 ans.
Ouais. Et donc, ça, en plus de ce qui se passait, bien sûr, à l'école, etc., en fait, les psys ont compris, finalement, nos pathologies, enfin, ce qui se passait, finalement, dans nos têtes. C'était une preuve disant, oui, enfin, ça ne pouvait pas être possible autrement. Là, ouais. Ils ont subi des traumatismes très importants de pédophilie ou autres, par exemple, pour mon frère. Et donc, c'est logique. Et il faut savoir aussi que ma sœur, elle rédigeait des journaux intimes. Et donc, relevait en fait tout ce qui n'allait pas finalement dans ses paroles d'enfant. Et donc ça, ajouté à tous les témoignages, parce qu'il y avait aussi la meilleure amie de ma mère a pu témoigner aussi de ce qu'elle avait pu voir. Enfin, en fait, finalement, tout notre entourage.
Et du coup, pendant ces deux années, juste pour bien comprendre comment ça se passe, lui, il est en prison à ce moment-là, tout de suite, directement après avoir porté plainte.
Ouais, parce que comme il ne devait rien à l'État français, puisqu'il ne travaillait pas, et ben finalement, ils ont préféré le mettre tout de suite en prison
en attente du procès.
C'est ça.
Et donc, vous, pendant ces deux années, vous vivez chez la meilleure amie de ta mère ?
Non. Alors, on a vécu, je crois, 3 semaines. Bon, dans ma tête, c'était 3 mois.
Ouais.
On a vécu quelques semaines chez elle. Et on a eu beaucoup de chance de trouver un appartement type HLM, mes nouvelles HLM, dans la même ville. Parce que on avait, la meilleure amie de ma mère avait une connaissance qui travaillait à la mairie.
Okay.
Et qui a pu nous choper finalement assez rapidement un nouvel appartement. Donc on a pu refaire notre vie là-bas finalement.
Et pendant ces deux années, tu n'as pas vu ton père ?
Non.
Et frère et sœur, pareil ?
Ouais.
Est-ce que vous étiez en manque de le voir ? Ou pas, parce que tu disais un peu plus tôt que tu as commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais tu savais pas encore tout à fait quoi. Le fait qu'il soit est-ce que c'était nommé qu'il était en prison ?
Oui.
Et ça, vous aviez compris ce que c'était ?
Alors, oui. Je pense que à partir du moment où j'ai témoigné, finalement, il y a plein de choses qui se mettent en place dans la tête.
Il y a un genre de déclic.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai tout de suite compris qu'il était en prison. Et j'étais soulagée de savoir que j'allais pas le retrouver, en fait. Et je pense que c'était le cas pour mon frère et pour ma sœur. Bon, peut-être qu'un peu plus tard, c'était un peu plus difficile, notamment pour mon frère, parce que il avait pas d'exemple masculin à la maison.
Eh oui,
À part mon grand-père, qui était souvent là, d'ailleurs. Je vais expliquer un petit peu plus tard. Mais non, on n'a pas spécialement, en tout cas pas à cette période-là. Moi, si je devais avoir un manque, c'était plus le manque d'un papa idéal. Parce que je voyais mes copines avoir des papas, mais c'est vrai que moi j'avais... Mais par contre, niveau parentalité, ma mère, elle a géré au top.
Ouais.
Donc j'ai jamais eu un gros manque non plus. Ouais. C'était vraiment juste l'exemple quand t'es enfant, t'as envie d'avoir comme les autres, tout simplement.
Et ton frère et ta sœur, pendant ces 2 ans, comment ça s'est passé pour eux ?
Je pense que c'était un petit peu comme moi, finalement. Je pourrais pas trop parler à leur place parce que j'étais pas dans leur tête, finalement. Et puis, entre nous, on n'en parlait pas.
D'accord.
Quand il y avait des choses à faire au niveau de la justice, on en parlait librement et tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on évitait au maximum le sujet, en fait.
Oui, je peux comprendre. Donc du coup, 2 ans après, il y a ce fameux procès. Comment ça se passe ? Comment vous vous sentez ? Comment tu te sens, toi ? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière ? Raconte-nous un peu comment ça se passe à ce moment-là.
Alors oui, il y avait une ambiance très, très, très particulière. Alors déjà, ça a commencé à 8h du matin et ça a fini dans les alentours de 23h30.
Ah oui.
Donc déjà, pour une enfant de 8 ans...
Ouais.
C'était quelque chose d'assez hardcore. Et puis, la chose que je retiens le plus, déjà, c'est la salle de procès, tout en bois, tout neuf, j'avais l'impression. Et en fait, en face de nous, on avait mon père, mais dans une cage de plexiglas, je ne sais pas trop comment l'expliquer, avec ses avocats ou son avocat, je ne sais plus combien ils étaient. Et à notre droite, il y avait le public. Du coup, il y avait un peu de sa famille. Je crois qu'il y avait même son meilleur pote avec qui il fumait et buvait. Et par contre, il y avait aussi notre côté-là, qui était là pour nous épauler. Et tout le long de la journée, déjà dès le début, ma mère, elle nous avait dit, si vous voulez aller dehors, allez dehors. Vous pouvez vous balader, vous faites ce que vous voulez. Et donc, mon grand-père, il m'a toujours accompagnée. J'avais l'impression, toutes les 10 minutes, j'allais dehors, je faisais que des allers-retours. J'avais besoin de bouger. Parce qu'en fait, en face de nous, il y avait notre père. Mmh. Et c'était hyper culpabilisant à ce moment-là.
Tu te sentais coupable ?
Je me sentais pas coupable. Mais c'était mon père. Et il nous regardait avec de la pitié. En fait, il voulait avoir beaucoup d'empathie pour lui à ce moment-là. Et j'ai eu de la chance. En fait, on avait une table, une très grande table, et sur le côté, il y avait un sorte de meuble. Et du coup, moi, je me cachais derrière le meuble pour pas avoir à l'affronter.
Parce que justement, qu'est-ce que ça t'a fait de le voir là, 2 ans après ?
C'était très dur parce que, comme je le disais, en fait, il voulait vraiment qu'on ait un regard très empathique envers lui. Mais en fait, non. Ouais. Ce qu'il fallait dire, c'était tout le contraire. Ouais. Et il fallait le descendre. Ouais. Donc,
t'avais de la colère quand tu l'as vu, là de la tristesse, de l'envie d'aller, je sais pas, le voir
J'avais pas envie de le voir. J'avais beaucoup, beaucoup de colère. Et finalement, j'ai compris que j'en avais toujours eu, même à l'époque. J'ai toujours été en colère de la façon dont... Pas moi, mais de la façon dont ils traitaient mon frère et ma sœur. J'avais énormément de colère. Et pour moi, en fait, comme c'est moi qui l'ai subi, c'était encore différent, en fait. Mais non, à ce moment-là, j'étais très en colère contre lui. Et j'avais envie, en fait, de montrer qu'il m'a fait du mal, il nous a fait du mal. Et il faut qu'il en paye les conséquences, en fait.
Comment ça se passe, justement, de témoigner à 8 ans, comme ça, à la barre du tribunal? Comment ça se passe?
Alors, ça commence par des pleurs, évidemment. J'étais accompagnée par ma super avocate. Et en fait, au début, je bifurque dans mon témoignage. Je leur explique une situation où, en fait, une fois, on était dans notre chambre avec ma mère, mon frère et ma sœur en train de regarder Charmed à la télé. Et tu sais, c'était les petites télés cathodiques hyper lourdes et tout ça. Et en fait, il était rentré totalement bourré et tout. Et il s'est énervé et il a jeté la télé. Et à ce moment-là, il essayait de viser mon frère. Sauf que c'est tombé sur moi. Et donc là, il s'en est voulu un max. Mais en fait, je commençais par ça. Et tout de suite, la juge, elle a dit « Non, on n'est pas là pour parler de ça. Il faut parler de ce qui t'est arrivé un peu plus tard. » Enfin, tu vois, elle voulait qu'on parle du viol direct. Mais pour moi, j'avais besoin d'un petit préambule, en fait.
Ouais.
Et c'était compliqué de directement parler du viol. Mais je l'ai fait, du coup, en pleurant vraiment toutes les larmes de mon corps et tout ça. J'étais vraiment pas à l'aise. Mais j'ai réussi à le faire. Et derrière, ils avaient quand même un regard assez bienveillant envers moi, quoi.
Ouais, ça devait pas être évident quand même, hein, de passer toute la journée à témoigner comme ça, écouter aussi ton frère, ta sœur, ta mère, l'écouter ça. Lui, d'être à la fois dans, j'imagine, de la colère, l'envie de sortir, de...
Voilà. Enfin,
tu devais être...
Et puis, c'était super long, quoi. Ouais, je veux dire, il y a eu beaucoup de témoignages avant que ce soit moi, et donc j'étais aussi impatiente de me délivrer de tout ça, quoi.
Ouais. Et ton père, tu l'as entendu ?
J'en ai pas le souvenir. Je pense qu'en fait, à ce moment-là, je devais être sortie parce que je n'étais pas capable de l'entendre.
Ouais, il ne se défendait pas. Est-ce que quand toi, tu témoignais, est-ce qu'il réagissait en disant « c'est pas vrai, c'est faux » ou « oui, c'est vrai »
Alors, tu n'as pas le droit de parler normalement à ce moment-là, quand quelqu'un est en train de témoigner. Donc non, je n'ai pas de souvenir de parole. Par contre, j'ai le souvenir de gestes, tu sais. Tu le sens, il n'est pas d'accord. Et il faut savoir aussi une chose très importante, c'est que pour lui, il n'a rien fait de mal.
Comment ça ?
Il n'a rien fait de mal. C'est-à-dire tout le procès, pour lui, de son côté, c'est non, j'ai pas commis ça, en fait.
Ah oui, c'est ça que je te demande.
Ouais,
il est donc complètement dans le déni, quoi.
Ah, totalement, totalement.
Alors attends, ce que tu disais, il n'a rien fait ou il n'a rien fait de mal ? C'est pas la même chose. Est-ce que de son regard, c'était « oui, c'est vrai, je l'ai fait, mais bon, qui ne l'a jamais fait ?» Ou non. Alors plutôt « bah non, j'ai jamais fait ça ».
Non, c'était vraiment « il n'a jamais fait ça ».
Ah ouais, donc dans le déni total, quoi.
Ah, c'était le déni total. Et le truc, c'est que je pense que ce déni, il vient du fait, parce que ça, c'était quelques années plus tard, où ma mère m'a un petit peu raconté le contexte familial dans lequel il a grandi, c'est que on pense que mon grand-père paternel a aussi violé ses sœurs.
Donc, son père à lui aurait violé les sœurs de ton père.
C'est ça. Donc, en fait, il aurait...
Pourquoi vous pensez ça ?
Parce que ma mère, elle avait décelé certaines choses qui semblaient un peu louches. Et ça semblerait cohérent par rapport à toutes les analyses psychiatriques qui ont été faites par la suite sur lui.
Donc, ça veut dire que pendant tout le procès, là... Il est dans le déni. Non, j'ai rien fait. Ça s'est pas passé.
Voilà.
Donc vous passez pas pour des folles, mais pour des personnes presque qui inventent quelque chose alors que tu sais que ça s'est passé au fond. Mm. Ça devait être hyper dur de ne rien dire, quoi.
Alors ouais, c'était super dur, mais je pense que comme j'étais jeune, j'avais pas cette notion là. Parce qu'en fait, pour moi, on partait tellement du principe où c'était sûr qu'il allait être condamné que finalement, pour moi, c'était pas si grave au pire, s'il le pensait pas, à partir du moment où il le comprendrait plus tard, tu vois. Mmh. Sauf que plus tard, il n'aura toujours pas compris.
Ça n'était jamais arrivé, quoi.
Ça n'est jamais arrivé.
Donc, le procès, il dure une journée ?
Il dure totalement une journée,
Dure une journée. Et quelle a été la peine prononcée, du coup ?
Alors, il a été condamné à 10 ans de prison, dont 5 fermes.
Ok.
Donc, c'était un soulagement. En même temps, il y a eu le divorce. Ma mère, elle a essayé de nous faire changer de nom de famille à cette époque-là, mais c'était compliqué, parce qu'on est néerlandais. Ouais. Et donc, c'est plus du côté état néerlandais qu'il fallait changer de nom de famille et pas du côté français. Donc, ça aura duré un peu plus longtemps. Finalement, on a changé de nom en 2019.
Ok.
Mais du coup, ouais, pendant 10 ans, je me pensais rassurée. Mais au bout de 5 ans, vu qu'il a été clean en prison, il a pas commis d'erreur, entre guillemets. Il est sorti au bout de 5 ans. Et donc, il avait 5 ans de liberté conditionnelle. Donc, la juge, elle nous a appelés quand même pour prévenir. Et il faut savoir que pendant ces 5 ans de prison aussi, il nous envoyait des lettres.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Alors déjà, comment on dit déjà ? Tu as devancé ma question. Déjà, comment ça se passe après le procès ? Comment vous vivez ça ?
Alors, après le procès, c'est la renaissance.
Ouais.
Vraiment, c'est la renaissance parce que là, comme on a commencé aussi un suivi psychiatrique, il y avait certaines choses...
Juste, tu dis « on », mais c'est même ton frère et ta sœur et ta mère, tout le monde.
Ouais, tout le monde.
Et ça a été une demande d'une avocate, etc. Ou alors c'est juste votre désir à vous
C'était le désir de ma mère.
Génial.
Dès le début, ouais. Elle a jamais... Ouais, on lui a jamais dit de faire ça parce que d'elle-même, elle s'est dit, en fait, il faut absolument s'y mettre. Et justement, après le procès, alors pour nous, c'était la renaissance, les enfants, mais ma mère, c'était la reconstruction.
Ouais.
Donc, elle est passée par un hôpital psychiatrique de son propre gré.
OK.
Parce qu'elle s'est dit, là, je suis plus capable de m'occuper de mes enfants correctement. Donc, il faut que je me rétablisse, moi, pour pouvoir revenir avec la pêche et faire les choses correctement. Donc là, j'avoue, c'était les premières années ont été très, très compliquées pour nous. Et en tout cas, là, je parle pour moi, ça a été très compliqué parce que forcément, tu as 8 ans, 9 ans, ta mère, elle est en HP. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu as juste envie, en fait, que ta mère soit là près de toi. Mmh. Et finalement, elle était là une fois tous les 2 week-ends.
Et donc, qui s'occupait de vous ?
Et donc, à ce moment-là, mon grand-père et ma grand-mère se relayaient notre garde. Donc c'est pour ça, finalement, on a eu beaucoup, beaucoup de soutien de ma famille côté maternel.
Et donc, vous dormiez dans cette dans l'HLM que vous...
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Mais vraiment, c'était une super vie, entre guillemets, là-bas. Vraiment, nous, de notre côté, on a pu nous reconstruire, nous construire nos personnalités. Ouais. Parce que si avec mon père, forcément, nos personnalités devaient s'effacer, on devait suivre... par rapport à lui. Mais là, on essaie enfin. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était débloqué. Donc, ça a duré pas mal de temps où elle était en HP. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'était très, très long. Ouais. mais je crois que c'était pas si long. Peut-être que ça devait être quelque chose comme 3 mois.
Ouais, mais bon, forcément, dans la vision d'un enfant, ça peut paraître effectivement une éternité. Ouais.
C'était éternel, ouais, tout à fait. Et donc, on a continué chez les psychologues. Moi, j'avais rendez-vous tous les mercredis, très assidu. Et en fait, le but de mon psy, c'était de me redonner une enfance parce que j'avais mûri beaucoup trop vite pour mon âge. Mmh. En fait, j'avais une maturité de peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça, alors que j'avais 8 ans. Enfin, c'était pas cohérent. Donc, je jouais à faire des dessins, de la corde à sauter avec mon psy. Enfin, c'était vraiment quelque chose... C'était des moments que j'adorais.
Ouais.
Et donc, ça m'a vraiment permis de reprendre mon enfance en main, même si derrière, à l'école, c'était un peu compliqué. Mais pareil, l'équipe à l'école était super parce qu'ils étaient au courant de tout ce qui se passait. Et même au collège, pour mon frère et ma sœur. Et donc, vraiment, les enseignants étaient vraiment avec nous, finalement.
Bienveillants.
Voilà, ils étaient super bienveillants. On avait, par exemple, moi, il m'arrivait... Enfin, j'étais très, très, très tête en l'air quand j'étais en primaire. Et donc, il m'arrivait d'être parfois seule dans la cour parce que j'ai pas vu ma classe partir. Et c'était pas grave, en fait.
Ouais.
Je me faisais pas gronder derrière.
Ouais. C'est cool que t'aies pu être entourée comme ça... dans de la bienveillance, dans de la croyance aussi.
C'est ça.
Je le dis parce que je trouve quand même, d'un point de vue très extérieur, parce que je n'ai pas vécu ça, mais souvent, on remet en cause aussi la parole de la victime. On ne l'écoute pas tellement et on ne la croit pas, quoi. Alors que ta mère, à aucun moment, j'ai l'impression qu'elle a douté.
Non.
Tout de suite, elle a agi. Là, tes grands-parents qui sont là, l'école qui est à l'écoute, c'est... Enfin, ça devrait se passer comme ça à chaque fois. Mais c'est quand même super que tu aies eu cette, tout ça autour de toi.
Podcast.
Et justement, comment ça se passe quand il est en prison? Est-ce qu'il a essayé de vous contacter? Est-ce que vous avez été le voir? Ou alors c'était interdit, enfin, peut-être de la part de votre mère et vous n'aviez pas du tout envie? Comment ça se passe?
Alors, non, on n'est jamais parti le voir. Par contre, il nous envoyait assez régulièrement des lettres. C'était des lettres où il disait « Oh, tu me manques ». Il faisait des lettres personnalisées pour chaque enfant. « Tu me manques, j'aimerais te revoir ». Et puis là, il sortait des pages du Coran parce que, selon lui, il est musulman. Okay. Mais encore une fois, c'était vraiment selon lui. Mais sauf qu'à un moment donné, on a demandé « Non, mais en fait, on ne veut plus voir ça. » Enfin, non, c'est plus notre père. Donc, on n'a pas envie de voir ça. Et ma mère, elle a très bien compris. Elle a demandé à notre juge à ce qu'il arrête de nous envoyer des lettres parce qu'il est quand même... Enfin, je veux dire, il n'a plus de droit parental sur nous.
Et comment il avait votre adresse?
On ne sait pas.
Tu ne sais pas?
Non.
C'est fou, ça, qu'il ait réussi à avoir votre adresse alors que
vous
avez déménagé au moment où il était déjà en prison.
C'est ça. Et on ne sait pas du tout. Vraiment, pour le coup, c'est un grand mystère, ça.
Okay.
Mais finalement, ils ont bien fait leur job et ils nous avaient pu envoyer de lettres.
Okay.
Donc ça va, pendant toutes ces années, finalement, on a vraiment pu nous reconstruire de notre côté, sans même avoir pensé à lui. Pendant 5 ans, c'était vraiment la tranquillité.
Oui, et alors les 5 prochaines années, parce qu'il y a ces 5 premières années où il est en prison, tout se passe bien pour lui, il ne fait pas de conneries, etc. Donc il est libéré.
C'est ça.
En conditionnel.
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe?
Ce qui se passe, c'est que je crois à cette période-là, j'étais en 6e. Et moi, même si je ne m'en rendais pas compte, je commence à avoir de gros stress qui arrivent. Déjà, c'était la transition entre la primaire et le collège. Ouais. Donc déjà, pour tous les enfants, c'est une période stressante. Mais d'autant plus pour moi, où là, j'avais carrément des plaques d'urticaire qui arrivaient sur mon corps. En fait, c'était mon corps qui voulait s'exprimer du stress, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il était à Nanterre à cette période-là, dans le 92, et c'est pas très loin de là où j'habitais, dans le 95, à Beson. Donc, en fait, j'avais la peur de le croiser. Surtout que quand t'es au collège, tu rentres tout seul, etc. Ah oui, Donc, j'avais toujours, finalement, la peur de le rencontrer. Mais ça allait. Parce que derrière, j'avais quand même fait un parcours avec les psychologues qui m'avaient pas mal aidée.
Ouais.
Donc, à côté de ça, ça allait. Après, pour mon frère et pour ma sœur, je pense que c'était encore différent. Parce que pareil, eux, ils ont dû avoir plus de recul par rapport à tout ça.
Ouais. Et il y a eu, donc pendant ces 5 premières années, il est en prison. Les 5 prochaines années, il est en liberté conditionnelle, donc tu as eu peur de le croiser. Tu l'as jamais croisé?
Jamais.
Il a jamais tenté quoi que ce soit de vous rencontrer? Rien.
Non. Peut-être un peu avant les 10 ans, ouais.
Ouais.
Mais c'était pas au tout début comme ça. Il n'avait pas le droit.
Et puis un jour, tu es en première.
Ouais.
La juge appelle ta mère pour lui dire que ça y est, c'est la fin de la peine. Comment tu le vis?
Alors là, je le vis très, 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 très mal. Parce que là, c'est vraiment le gros stress où je me dis, là, il n'est plus en liberté conditionnelle. Ah ouais. C'est vraiment, à tout moment, il peut redébarquer dans ma vie. Et en fait, je n'ai pas envie de ça.
Ouais.
Donc, pareil, mes plaques, elles reviennent, mes puissances x10.
Ouais.
Je dois aller aux urgences assez régulièrement pour qu'on me donne des antihistaminiques, etc. Enfin, c'était vraiment une catastrophe niveau santé et même niveau mental. Du coup, à ce moment-là, j'arrivais plus à gérer. D'autant plus que moi, j'ai toujours été une personne assez stressée pour l'école. Et là, t'as les premiers bacs.
Et oui.
C'est l'année du premier bac. Donc, c'était très... très, très compliqué pour moi. Et en fait, j'arrivais plus à aller en cours correctement. Mais encore une fois, j'avais beaucoup de chance dans le sens où ma mère m'a tout de suite comprise. Donc, en fait, elle me mettait zéro pression.
Ouais, ça, c'est trop bien.
Ouais. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que en fait, la juge a dit, si vous voulez le revoir, on peut organiser les choses et tout ça avec moi dans une salle. Comme ça, on est à 3, 4 avec la mère, si besoin.
OK.
Et donc, ma sœur a décidé de faire ce choix-là.
De le voir ?
Ouais, de le voir avec la juge.
OK.
Et mon frère, je ne sais plus trop, mais il me semble que c'était pareil que moi. Nous, on a décidé qu'on ne voulait pas que ce soit dans un lieu où, finalement, c'est trop de pression, quoi.
Ouais.
Moi, j'avais envie... En fait, je n'avais pas envie de chercher midi à 14h. Moi, ce qui m'importait à ce moment-là, c'est qu'ils reconnaissent. Parce que jusque-là, il avait reconnu zéro fait.
Oui. Alors, juste, ta sœur, elle désire le voir. Mm. Tu lui en veux à ta sœur, à ce moment-là ?
Non, parce que moi aussi, j'avais le désir de le revoir, mais juste pas dans les mêmes conditions.
OK. Donc, ouais. C'est d'abord ta sœur qui le revoit, première fois.
Oui.
Elle vous raconte comment ça se passe ?
Pas vraiment.
T'as pas de souvenir de ça
Non, j'ai pas vraiment de souvenir. Je sais que ça a duré quand même un petit bout de temps.
Okay.
Ils ont quand même échangé, mais je ne sais pas de quoi ils ont échangé. Mon frère, c'est encore plus discret. Je sais qu'ils se sont rencontrés, mais j'en sais pas plus. Après, je sais que lui il cherchait aussi à lui parler parce que pareil, il était en manque d'une figure paternelle, quoi. Donc, je pense qu'il avait besoin de remettre les choses un peu en place avec lui-même par rapport à ça. Mais moi, non, moi, il me fallait pas de cadre. Donc, ma mère, dans un premier temps, parce qu'en fait, au début, il n'y avait pas trop de possibilités, finalement, en dehors de la juge, enfin, en dehors d'une salle avec la juge. Ouais. Donc, elle a appelé une association de femmes pour savoir si c'était possible d'utiliser leurs locaux pour que je puisse le rencontrer. Mais alors là, la pauvre, elle a fait face à une femme qui, je pense, avait elle-même des traumas internes, qui disaient « Ah non, mais vous n'avez pas honte de faire rencontrer vos enfants, leur père, etc. » avec tout ce qui s'est passé. Et ma mère disait « Mais moi, je choisis en fait le choix de mes enfants. »
Déjà, je ne te demande pas ton avis.
Déjà. Pour commencer.
Et puis, j'écoute le désir de mes enfants aussi. Je suis à l'écoute de mes enfants. Quoi.
Exactement. Donc, en fait, après cet appel, elle s'est dit « Bon, d'accord, ok, il va falloir trouver une autre solution. » Et donc, on en a parlé et ma mère m'a dit « Écoute, tu peux le contacter sur Facebook. On établit un lieu et si tu as besoin, moi, je ne serai pas très loin. Je comprends que tu ne veuilles pas que je sois là, vraiment physiquement, à 2 cm de toi. Mais je peux être un peu plus loin pour surveiller sans aucun souci. » Et c'est ce que j'ai décidé.
Donc, tu le contactes sur Facebook ?
Donc, je le contacte sur Facebook en sachant qu'il est très actif.
Okay.
Encore aujourd'hui, parce que j'avoue, de temps en temps, je vais regarder son Facebook, en fait, juste pour savoir s'il a envie.
Ouais.
Et donc, il me répond assez rapidement, mais il veut savoir comment je vais, etc. Mais moi, je dis non, enfin, écoute, je te donne un rendez-vous, t'y es pas, voilà, à telle heure. Je lui ai donné rendez-vous sur l'esplanade de la Défense, au niveau des fontaines, un peu plus bas, pour qu'on soit... un peu isolé, mais qui est du monde, voilà, qui est du monde autour. Donc, ma mère est venue. Il y avait aussi ma sœur. Je pense qu'elle avait fort besoin d'être là, elle aussi, parce qu'elle a toujours eu ce besoin de me protéger.
Ouais.
Donc, elle était avec ma sœur un peu plus loin. Et en fait, j'arrive à l'esplanade.
T'étais stressée ?
J'étais très stressée.
Ouais.
J'étais très, très stressée. En fait... en moi, ça bouillonnait. Ouais. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en moi. J'avais besoin de l'exprimer.
Ouais.
Et j'avais surtout besoin qu'il reconnaisse ce qu'il m'a fait, parce que j'en ai les souvenirs. Mmh. Je me suis dit, mais à aucun moment, il pourra me dire comme ça, alors qu'il n'y a personne autour de nous, que c'est faux, que j'invente, fait, les choses.
Ça a été, je trouve que d'un point de vue très extérieur, c'est très courageux de ta part d'y aller. Et de te dire, je veux le confronter, je veux qu'il reconnaisse et je veux le rencontrer. Enfin, tu vois, c'est hyper...
Ah, mais c'est très particulier, c'est vrai. Et c'est pour ça, je pense aussi que c'est grâce à mon fort caractère où je suis un peu brute de décoffrage que j'ai réussi à faire ça. Mais je te dis pas les jours d'avant, enfin, je veux dire les crises que j'avais. Enfin, c'était vraiment... J'arrivais pas à dormir à cette période-là, mais je crois que j'ai pris 30 kilos. Enfin, c'était vraiment infernal.
Bien sûr, ouais.
Voilà. Alors que je pouvais manger 3 feuilles de salade, mais je prenais des kilos quand même. C'est ça.
Ouais, ouais. Et donc là, tu le rencontres, il arrive.
Et alors non, c'est moi qui arrive parce que lui, okay. il était déjà sur le côté de la fontaine. Et en fait, je me rends compte que c'est plus du tout la même personne que j'ai connue.
Il s'est passé 10 ans.
Voilà, il s'est passé 10 ans. Et c'est
enfin, même 12, du coup.
Non, 10 ans. Bon, peut-être 11 ans.
Attends, mais parce qu'il y a ce truc à 6 ans. Pendant 2 ans, il est en prison. Voilà, il y a le procès. Ah oui, non, mais tu l'as vu. Mais oui,
voilà,
oui, okay.
C'est ça.
Ok.
Donc, bon, c'est, après 2 ans, c'était plus ou moins la même personne. Bon, tu sais que la prison, ça marque un petit peu. Mais là, 10 ans...
Tu ne le reconnais pas, quoi.
Ah, je ne le reconnais pas. Si tu veux, moi, à l'époque, j'avais l'image très forte de lui où, en fait, il avait les cheveux très noirs et il avait une mèche blanche, comme ça. Mais là, c'était tous les cheveux qui étaient blancs, les rides qui s'étaient installées. Et je sais qu'il avait fait un AVC aussi.
Okay.
Donc, en fait, c'était un papy que j'avais face à moi et c'était pas... C'était pas la personne que j'ai connue à l'époque.
Et ça t'a fait quoi de le voir comme ça?
Alors, heureusement, à ce moment-là, j'avais zéro peine pour lui. Moi, vraiment, j'étais encore une fois pleine de colère et j'avais besoin de l'exprimer. Mais j'avoue que ça m'a choquée parce que je me suis demandé pendant quelques instants, est-ce que c'était vraiment lui? Enfin, tu sais, moi, j'avais mes souvenirs de 6 ans, mais en fait, les souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est les mauvais souvenirs. Et c'est pas forcément son visage ou quoi. Donc, en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Enfin, j'ai eu ce petit doute. Mais en me rapprochant de plus en plus, je voyais que c'était lui. Et puis, je le regardais, il m'attendait avec impatience, quoi. Du coup, il me dit bonjour. Moi, je dis salut. Enfin, tu sais, j'ai pas envie d'être courtoise ni quoi. Il me dit, mais comment tu vas? J'ai dit, écoute, moi, je suis pas là pour papoter de ma vie. J'ai pas envie de raconter ma vie. Moi, j'ai besoin de savoir qu'une chose. Est-ce que tu reconnais bien m'avoir violée? Il disait, mais non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, non. Moi, c'était hors de question qu'on parle de ma vie. Il ne devait rien savoir de ma vie. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'il l'avoue, enfin. Je veux dire, pas à moi. C'est pas possible. Et... il voulait pas, à chaque fois, il allait sur une autre discussion, il voulait vraiment savoir ce que je faisais et tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que je devenais. Je disais, mais non, soit tu reconnais, soit je me tire. Il n'y a pas d'autre solution possible. Moi, je ne suis pas comme ma sœur. Enfin, non, avec moi, il n'y a pas de discussion. Et il ne voulait pas. Je disais, écoute, si tu ne veux pas me dire, moi, vraiment, là, cette fois, je pars.
Tu me barres, quoi, ouais.
Et en fait, ça a duré comme ça pendant 2 minutes. Et je lui ai dit, écoute, là, c'est la dernière fois que je te demande et je ne vais pas réitérer ma question. Est-ce que tu reconnais m'avoir violée? Sachant que je lui ai posé quand même au moins 5-6 fois la question. Il ne voulait toujours pas la mettre. J'ai dit, bah, ok, ça me va. Salut. Et donc, je suis partie. En larmes. Rejoindre ma sœur et ma mère qui étaient un peu plus loin. Mais je me suis sentie forte. Je me suis dit, en fait, le karma s'est occupé de lui. Il a fait un AVC, il a été en prison. Je pense que moi, en fait, j'ai plus rien à voir dans son histoire. Là, maintenant, j'ai reconstruit mon histoire de mon côté. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de me dire, j'ai été assez forte, de me dire... que je ne vais pas céder à ses caprices à lui, que c'était à lui de céder à ce que moi, je demandais, et qu'il n'a pas réussi à m'avoir. Et en fait, il ne m'aura jamais. Plus jamais de la vie, il m'aura. Je ne suis pas aussi innocente que je l'ai été quand j'étais petite. Maintenant, j'ai compris les choses, et il n'y a aucun souci avec ça. J'avance de mon côté, je fais ma vie. Toi, c'est fini. Je ne veux plus en parler.
Ça me donne envie de chialer. Je te trouve hyper courageuse, hein. Mais vraiment.
Bah, je te remercie.
Je trouve ça hyper fort. Et pardon.
Il y a pas de soucis.
Mais vraiment, je trouve ça. Déjà, enfin, toute ton histoire, tu vois, c'est fou. Et puis en plus, tu vois, que tu le confrontes et que tu te dises, mec, avoue. Et que le mec, il s'en bat les couilles. Enfin, il s'en bat les couilles.
Non, mais c'est le bon terme.
C'est pardon, mais ça m'énerve. et que juste, tu dis, c'est quoi, mec? Ok. Ciao. Et que toi, juste, tu ressortes de ça en te disant, en fait, c'est lui qui a perdu, là, dans l'histoire. Je trouve ça hyper courageux, mais vraiment...
Là, c'est très
gentil. C'est pas donné à tout le monde, tu vois, vraiment. Donc, enfin, c'est pas donné à tout le monde, si, c'est donné à tout le monde, mais que t'en arrives là et que tu dises, ok, je refais ma vie, tu reconnais pas, tant pis, moi, je sais ce qui s'est passé. Enfin, c'est très fort. Tu peux vraiment être fière de toi. Hein.
Bah, c'est très gentil, vraiment. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas l'occasion de le dire tous les jours. Parce que bah, forcément, les gens, ça les impacte mais aussi, oui. Mon histoire.
Mais... Enfin, ça les impacte.
Ouais, non, mais tu sais...
Dit-elle en chialant sa race.
C'est ça, mais en fait moi, je le dis aujourd'hui. En fait, c'est vrai que moi, je me suis pas rendu compte des choses au moment où ça arrivait.
Et oui.
Mais j'ai eu le temps de m'en rendre compte, de faire un vrai travail psychologique. Et en fait, ouais. C'est ça qui m'a rendue forte. C'est ça, ouais. Qui m'a redonné la pêche. Ouais. C'est ça qui m'a redonné l'espoir aussi en la vie. Parce que quand j'entends... toutes les personnes, ouais. Qu'on ne croit pas aujourd'hui. Enfin, ouais. Là, tu vois, ça me donne, ouais. Envie de pleurer parce que ça se fait pas.
C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. C'est que, tu vois, quand je disais au tout début qu'on a reçu plein de témoignages, c'est qu'il y a tellement, tellement d'histoires similaires. Il n'y a pas de plus grave, moins grave. Il y a tellement d'histoires similaires où il n'y a pas de suite. Tu vois, où le mec, la meuf, peu importe, les parents, l'oncle, sont en liberté et qu'il n'y a pas de suite. C'est terrible, tu vois, qu'il se passe ce genre de choses. Que là, tu sois tombé sur une policière qui t'écoute, qui te montre des bonnes, qui te montre des images, des choses, qui t'entend, qui reconnaît. C'est énorme. Et forcément, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, mais moi, je me rendais pas compte que quand j'allais dans le lit et qu'il me sortait son sexe, je me rendais pas compte que c'était normal ou pas normal. Parce que la notion de désir, elle existe pas à ce moment-là. Mm. Ça existe pas. Donc, ça fait partie de ta vie. C'est peut-être un peu bizarre comparé à ton frère, à ta sœur, mais t'as pas conscience du truc. Et donc, ça a mis, au final, j'allais dire, le bien dans tout ça. Enfin, c'est un peu un mal pour un bien, dans le sens où... Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas l'histoire, hein, mais c'est juste en soi que tout le temps, tout le processus qui a pu se passer en toi, tu vois, de... On est écouté, tout de suite, il va en prison. J'ai pu comprendre ce qui se passe. Je le rencontre. Et là, je me rends compte que là, ça va pas. Tu vois, tout ce processus-là, c'est pas anodin, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Et je pense que c'est tout ça qui t'a aidé à comprendre, à avoir de la colère, et puis après, pas du pardon. Tu l'as pardonné, tu pourrais dire ça. Ce qu'on dit tout le temps, qu'il faut... Moi, je suis pas forcément d'accord avec
moi,
ça.
Moi, je suis pas d'accord non plus. Pour moi, en fait, je peux pas pardonner, je peux pas cautionner ce qui s'est... Même si le pardon et le cautionnement, c'est pas la même chose, mais je peux pas pardonner. Je veux dire, c'est quand même ton enfant, ta chair... Il m'a fait ça, j'avais 2 ans.
Ouais.
Tu peux pas voir un enfant de 2 ans et te dire « j'ai une attirance sexuelle ». C'est pas possible. Donc en fait, ça, c'est hors de ma portée. Ça, c'est bien l'une des choses... Tu vois, je te disais, je suis brute de décoffrage. Et bien parfois, pour moi, c'est un peu noir ou blanc. Et là-dessus, là, c'est vraiment noir.
Oui, bah,
c'est impossible
évidemment.
De... Voilà. C'est impossible pour moi de le pardonner. Et c'est aussi, je pense, grâce à ça que j'ai eu ce courage de me dire, bah écoute, ça y est, je fais ma vie de mon côté, finalement.
Ouais. Podcast. Est-ce que ta mère, elle l'a revue après? Est-ce que...
Alors, à ce moment-là, dans la période donc, des 10 ans... Non, elle ne l'a pas revue. Mais pendant plusieurs années, elle écrivait des lettres où elle se disait qu'un jour, elle dirait ses paroles à mon père pour mettre fin, en fait, ouais. De son côté sur cette histoire. Et donc, c'était il y a peut-être 5-6 ans, je dirais, qu'elle l'a revue.
Ouais, c'est récent. Hein.
Ouais, c'est assez récent. Et en fait, elle lui a donné rendez-vous... à Châtelet. Je sais pas si tu vois le Monoprix, là, qui est sur 2 étages.
Bon, j'habite plus à Paris, tu sais. Je vois la fontaine de Châtelet. Je vois le KFC, le McDo. Les références.
Ben, c'est un peu à gauche de toute la fontaine, etc.
Ok.
C'est côté cathédrale ou église. Enfin.
Ok.
Bref, elle lui a donné rendez-vous au Monoprix, là-bas, parce qu'il y a une cafette. Et elle s'est dit, en fait, c'est le moment où moi, je vais parler.
Ouais.
Et je m'en fous
qu'il l'entende
de ce qu'ils disent. Ouais, voilà, exactement. Même s'il l'entend pas, c'est pas un souci du moment que moi, je me libère. Ouais, ça, ouais. C'était vraiment la pensée de ma mère. Et donc, pendant toutes ces années, elle avait renfermé tellement de haine, de colère. Enfin, je veux dire, elle l'aimait début de leur relation.
Ouais. Bah ouais.
Je veux dire, si elle s'est mariée à lui, ouais. Si elle a fait des enfants avec lui, c'est parce qu'elle le voulait. Maintenant, ce qui s'est passé par la suite, forcément, c'est pas évident. Et encore moins pour elle, parce qu'elle avait beaucoup de recul. Mmh. Même si, dès le début de leur relation, mes grands-parents n'ont pas acquiescé. Ils ne l'aimaient pas dès le début. Vraiment, c'était très, très chaotique au début. Mais elle s'était battue. Et elle a décidé de lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire. Et elle s'en fichait, en fait, de si lui, il allait dire quelque chose ou pas. Et en fait, lui... il a fait le gâteau moelleux. comment tu vas, encore une fois, j'aimerais savoir ce que tu fais, etc. Mais c'était au-dessus de sa tête. Elle aussi, elle avait fait un vrai travail psychologique, enfin, elle avait beaucoup avancé dans sa vie. Et donc, en fait, elle s'est sentie libérée de pouvoir lui dire tout ce qu'elle avait à lui dire du plus profond de son cœur. Mais bon, le personnage reste le même. Et pour te dire, il a quand même demandé à ce que ma mère lui paye le café.
Bah, bien sûr.
Évidemment.
Évidemment, pourquoi il aurait fait autre chose, enfin.
C'est ça. C'est si fou. On peut profiter encore un petit peu de ce qu'on a, bah voilà.
Mais c'est fou parce que tu vois, quand tu dis ma mère, ce qui comptait, c'était de lui dire. Et moi, finalement, même si j'aurais aimé qu'ils reconnaissent, mais au final, ce qui comptait, c'était d'avoir dit. Je trouve que c'est un truc, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, pour ce genre de situation ou d'autres. Parfois, on a besoin de confronter l'autre parce qu'on se dit, bah, j'ai besoin qu'il me dise ça, qu'elle reconnaisse ça et machin. Et au final, souvent, c'est juste parce qu'on a besoin de sortir et que ce soit dit. De sortir les mots et que ce soit dit. Parce qu'on attend souvent que l'autre change. Mais c'est une illusion, hein, l'autre ne changera jamais. On peut évoluer, mais on ne change pas fondamentalement. Je crois pas. Enfin, je pense pas. Hein. Et que là, tu vois, que ta mère, elle fasse ça, c'est fait, c'est dit. Toi, t'as eu envie, t'avais besoin de le rencontrer, qu'il reconnaisse, il l'a pas fait, c'est pas grave, t'as été courageuse, t'as été... Enfin, tu vois, tu dis, j'ai pris 30 kilos, j'étais hyper en colère, machin, ça a été douloureux pour toi, quoi. Tu vois, et au final, bah, qu'il le reconnaisse ou pas, avec du recul, c'est plus tant important, parce que tu sais, quoi.
C'est ça. En fait, du côté de l'histoire de mon père, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très calé. Maintenant, c'est vrai que dans ma vie, en extérieur... Si on me dit, par exemple, que je suis égoïste, mais en fait, je peux pas l'accepter. Ouais. Parce que pendant des années, j'ai donné mes bonbons. Tu vois ?
Elle est trop mince. Je peux pas. Non, moi, j'ai jamais été égoïste, d'accord ? Parce que c'est tous ça. Les bonbons, moi, je les ai donnés à mon frère, à ma soeur.
Dès toute petite, voilà, en fait, mignonne. Dès toute petite, j'étais comme ça. Et même aujourd'hui, par contre, j'ai besoin, quand quelqu'un fait une erreur, qu'il reconnaisse ses erreurs et qu'il dise pardon.
Et oui, parce que sinon, ouais.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je laisse pas passer les choses comme elles se sont passées. Et maintenant, il faut que ce soit carré partout.
Ouais.
Je peux pas laisser quelqu'un me faire une connerie et ne pas s'excuser par la suite.
Ouais.
Même si, tu vois, moi, je suis pas rancunière pour un sou, mais au moins, cet acte-là, il faut que ce soit acté. Quoi. Ouais. Tu
vois. J'ai une question un peu psy de merde que je ne suis pas, mais comment t'as réussi à faire confiance aux hommes ? Est-ce qu'il y a eu un truc où ça n'a pas du tout été un sujet ? Ou pour toi, d'avoir des relations sexuelles, d'être désirée, de toi caresser quelqu'un, etc. Ça s'est fait naturellement. Pardon, c'est peut-être un peu brutal comme question.
Pas du tout, moi je suis hyper ouverte.
Bon, trop bien. Ou alors ça a été compliqué pour toi ?
Alors, j'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension, j'avoue. Notamment pour la fellation.
Ouais.
Et faut être honnête, quand t'es une jeune fille, tu sais que tu vas passer par là, la sexualité, ça se passe pas trop autrement. Donc en fait,
ça peut, mais c'est encore un sujet, quoi.
Voilà, exactement. Quand t'es jeune, tu te rends pas compte aussi de ce que c'est la sexualité, quelles sont les possibilités. Et donc j'avais très très peur de la fellation. Donc j'ai mis un petit peu de temps. J'en ai beaucoup parlé à mon ex de l'époque avec qui j'ai fait ma première fois. Et il a été super, super délicat, pour le coup. Il a vraiment compris aussi la problématique. Je veux dire, il a été là au moment où j'ai rencontré mon père. Enfin, revu mon père.
Eh oui, d'accord.
Donc, il savait très bien qu'à cette période-là, j'étais pas... Enfin, il fallait pas trop, trop me bousculer. Donc, il a été super gentil avec moi. Et finalement, grâce à lui, ça s'est bien passé. Et j'ai jamais eu de soucis. Et justement, avant de venir ici, j'étais en train de me dire, mais... Est-ce que j'étais passée par là où j'avais vraiment peur et finalement non, parce qu'on a su me mettre en confiance aussi dès le début.
Tu trouvais quelqu'un face à toi qui respectait, qui entendait.
C'est ça. Après moi, encore une fois, je dis les choses et si ça sort en dehors de mon cadre, je suis pas à l'aise et du coup je fais pas.
Ouais.
Donc du coup, je pense que le fait que j'avais un gros caractère aussi, ça a beaucoup joué et ça a pu mettre les limites quoi dès le début.
Et de toi à toi, de ta sexualité avec toi, de ton rapport au corps à toi, est-ce que ça a été difficile ou pas du tout ?
Alors c'est une très 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 bonne question parce que là par contre ça a été beaucoup plus difficile. J'ai commencé à me toucher, j'étais très jeune. Je pense que je devais avoir 10, 11 ans, tu vois. Après, je pense que la norme, c'est un peu plus tard. Mais voilà, la norme, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, pour moi, c'était super tôt parce que déjà avec mes copines, encore actuellement, je trouve ça fou. Enfin, je veux dire, j'entends des filles qui ne se touchent pas. Mais bon, ok, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, moi, j'ai commencé assez tôt parce que je me suis rendu compte de la sexualité aussi très tôt,
ouais.
avec justement tous les témoignages et tout ça, parce que je me suis rendu compte de ce que ouais. c'était. Et du coup, j'avais beaucoup de haine envers moi. Et à chaque fois que j'étais en train de me toucher, eh ben, en fait, je pensais à mon père.
Eh ouais, bah ouais.
Et là, ça, c'était un cauchemar parce que ouais. je m'en voulais
ouais, ouais.
de me dire que finalement, il aura réussi à... Enfin, c'est avec du recul, hein, parce qu'à cet âge-là, tu te dis pas c'est à cause de lui que je pense... Enfin, c'est à cause de... Oui, si, c'est à cause de lui que je pense à lui, finalement, ouais, dans ma ouais. sexualité. Et je m'en voulais parce que je me disais c'est quelque chose de mal.
Eh ouais.
Je me disais, ça, c'est
alors
un truc...
Il fallait lui en vouloir à lui, parce qu'au final, t'es pas responsable.
Et pendant des années, mais des années, hein, je pense jusqu'à... Jusqu'à mes 16-17 ans, pour moi, c'était quelque chose à bannir.
Ouais.
J'avais pas le droit de penser à ça.
Mmh.
Et à chaque fois, je m'en voulais, mais j'avais ce truc où il fallait que je le fasse aussi. Enfin, j'étais une femme, quoi. Enfin, une femme, une jeune
envie,
fille.
Quoi.
Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Mais derrière, je culpabilisais et je me disais, mais plus jamais. Enfin, en fait, ouais. finalement, ça me procurait pas assez de plaisir pour pouvoir ouais. recommencer. Et finalement, si. Enfin, c'était un cercle ouais, hyper ouais. vicieux et je me sentais vraiment pas bien à cette époque-là envers moi-même. Et surtout que bah, mon corps, il avait vachement changé.
Ouais.
Et j'avais du mal à l'accepter parce que là, du coup, je devenais une femme et potentiellement une proie à l'extérieur.
Un objet de désir, ouais.
C'est ça. Et du coup, ça a été vachement compliqué à mettre en place. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà, j'ai pu parler librement, bon, à part de ma sexualité personnelle, j'ai pu parler assez librement à tout le monde, à tous mes amis. Et puis moi, j'étais du genre à dire dès le début à mes amis ce qui m'était arrivé pour qu'en fait, ils sachent que je suis une personne comme ça. Et c'est pas grave, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est mon histoire. Ça arrive à plein de monde, on s'en rend pas compte. J'ai même une amie, mais elle a vécu dans la culpabilité pendant des années. C'était pas le même processus que moi avec un procès, etc. Mais je préfère le dire, comme ça met aussi à l'aise d'une certaine façon les gens, en se disant, ah oui, elle peut comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je suis très empathique. Mmh. Justement, toute cette histoire m'aura permis de finalement pouvoir déceler assez facilement les gens.
Mmh.
Dès que je ne sens pas une personne,
ouais, tu m'en approches pas. Pas quoi.
Voilà, je m'en approche pas, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a réussi.
Mmh.
Donc honnêtement, je suis plutôt ravie de ce côté-là.
Mmh. Pourquoi tu as souhaité témoigner et partager ça aujourd'hui?
Alors déjà, parce que cette histoire, elle est revenue en force dans ma vie il y a un mois.
Ça.
En fait, il y a quelques mois, l'année dernière, mon fiancé, il avait commencé un nouveau travail dans la cybersécurité.
Ouais.
Et en fait, il faut avoir un papier, une habilitation qui te permet de travailler justement avec l'État sur des dossiers confidentiels. Et pour avoir cette habilitation, ils font beaucoup de recherches sur toi et sur ton entourage. Malheureusement, il y a un peu plus d'un mois, alors qu'il était en déplacement, on lui a dit « Écoute, demain, il va falloir que tu déposes tes dossiers, etc. Tu ne peux plus travailler avec nous, tu n'as pas ton habilitation. » Et du coup, on a cherché à comprendre pourquoi. Et en fait, c'était à cause de mon père, parce qu'il avait fait de la prison.
Ah, putain.
Donc, déjà, à cause de ça, en fait, ces derniers temps, cette histoire... Elle revient vachement à moi. Donc, j'avais besoin de finalement le réexprimer, je pense, un dernier coup. Et aussi...
Pas forcément un dernier coup. Hein,
ouais, non, mais un bon coup en tout cas. Ouais, parce ouais. que là, il y aura du monde qui ouais, va écouter. Ouais.
J'espère.
Mais aussi dans le sens où, en fait, il peut nous arriver des merdes dans la vie. Des merdes ouais. inimaginables. Mais on peut vraiment... Même si c'est hyper chiant pour quelqu'un qui est, par exemple, en dépression et tout ça, à dire « Ah ouais, il faut penser au positif ou quoi. » En fait, on peut vraiment s'en sortir. Et on peut être quelqu'un qui utilise justement son histoire à bon escient, en fait.
Mmh.
Je veux dire, aujourd'hui, j'ai cette empathie que j'ai gagnée grâce à toute cette histoire. Elle me sert vraiment au quotidien. Et c'est quelque chose d'hyper positif. Et en fait, certes, j'ai vécu une misère pendant des années, mais en fait, aujourd'hui, je me sens bien avec ce qui s'est passé.
C'est comme si tu avais vécu, tu me dis, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que l'atrocité que tu as vécue te rend plus forte.
Totalement.
C'est ça, en fait.
Exactement. Vraiment, ça m'a rendue très, très forte. Et c'est de là aussi mon caractère un peu brut, mais enfin, je l'accepte sans aucun souci, parce que je peux être aussi délicate sur certains points, justement, avec mon empathie. Mais vraiment, on peut aussi voir une perspective, en fait. Après, ce long tunnel très noir, très sombre, tu te dis qu'il y a quand même une porte de sortie. Et vraiment, cette porte de sortie, elle est très belle à saisir. Vraiment, là, pour le coup, je pense que je pourrais pas me mettre dans une autre vie que la mienne, parce que je suis hyper contente de voir que c'est possible de s'en sortir, que la police peut aussi nous aider fort, même si aujourd'hui, c'est un peu plus délicat.
Ouais. On rappelle d'ailleurs, justement, enfin, on rappelle, je vous le dis, qu'il y a un numéro de téléphone si vous êtes victime d'inceste ou de violences sexuelles. Il y a un numéro qui est le 0805 802 804. C'est important de le dire quand même, parce que si vous vivez ce genre de choses, ne restez pas seul avec ça et n'ayez pas honte d'en parler. C'est important de libérer la parole, vraiment. Et je pense que tu en es vraiment la preuve de pouvoir se libérer de cette parole-là, de confronter l'autre. Et moi, je te le redis encore une fois, je trouve que tu es hyper courageuse. Je trouve que c'est très beau tout ce que tu dis. Tu vois, c'est que t'as vécu l'atrocité, enfin, c'est terrible, et que t'arrives à faire quelque chose de positif. J'ai pas envie de dire ça, mais...
Ça fonctionne.
Tu vois, voilà, c'est devenu... Enfin, t'es devenue forte, quoi. Je dis pas que t'étais faible, c'est pas ça, mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Il y a pas à prendre des pincettes, t'en fais pas.
Et voilà, donc vraiment, bravo. Et tu peux, encore une fois, je sais que pour toi, ça, quand les gens te disent ça, tu peux dire oui, bon, ça va, mais vraiment, sois fière de toi. Parce que c'est pas n'importe quoi ce que t'as fait. De le confronter, d'y aller à 8 ans, puis là, et puis tu retournes encore parfois sur Facebook, c'est normal. Vraiment, je trouve que c'est hyper fort, quoi. Donc, bravo.
C'est très gentil, merci. Vraiment, ça me touche. Parce que c'est vrai que, comme c'était dans mon quotidien, j'ai du mal à m'en rendre compte. C'est finalement quand j'en parle à des gens où je m'en rends compte. Et puis, on est tellement nombreux, nombreuses.
Ouais, ouais, ouais.
Il faut en parler. Ouais. Je veux dire, moi, je sais que si aussi j'ai fait cette démarche-là, c'est parce qu'il y a quoi, 2-3 ans, j'avais vu une vidéo sur Instagram... d'une femme qui avait subi aussi de l'inceste. Je crois que c'était Origine ou quelque chose comme ça, qui avait publié ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un qui témoigne de son inceste. Ouais. Mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas alors que ça touche tant de personnes?
Ouais.
Je veux dire, il y a plein de discussions et tout ça qui se mettent en place sur les réseaux. Mais en fait, ça, j'avais l'impression que j'étais... Enfin non, en fait, ce qui m'arrivait, j'étais un peu isolée. Et non, en fait, on est tous ensemble.
Ouais.
Et il faut vraiment qu'on libère la parole.
Ah
il
ouais.
n'y a aucun mal à ça. C'est pas nous qui avons fait du mal. Donc en fait, il faut vraiment que tout le monde puisse en parler librement, sans aucun souci. Et sans jugement, qu'on puisse croire la victime. Parce que ça aussi, c'est encore autre chose. Nous, on a eu beaucoup de chance dans notre parcours là-dessus. Tout le monde nous a cru dès le début. Mais c'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde, quoi.
Oui. Madia, merci beaucoup d'être venue t'exprimer dans le podcast. J'espère sincèrement que ton histoire et tes mots aideront d'autres personnes à avancer et à se battre et peut-être à prendre la parole sur le sujet. Merci à vous, chers auditeurs. Je sais que je vous le dis à chaque fois, que vous êtes exceptionnels, que je vous aime très fort, mais vraiment, merci beaucoup. C'est important que je vous le dise. Voilà, je fais aussi et je fais surtout ça pour vous. Donc, merci beaucoup d'être à chaque fois au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Twitch et aussi sur YouTube. Sur Pornhub, c'est faux. Vraiment, c'est toujours... À chaque fois, je dis ça, mais c'est faux. Enfin, peut-être qu'un jour, tu sais, à force de dire ça, il y aura une vidéo de moi sur Pornhub. Et je me dirais... Ah ok, bon, j'y vais. Non, c'est pas vrai. Bon, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Salut. Podcast. Podcast.
Hold up. This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky smooth Tree Dasher, the responsive foam and extra grip of the Tree Runner, or the classic low-top look of the Tree Piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.